troisième rubrique de cette émission, c'est le sujet qui fâche, et en relation d'ailleurs avec ce que on vient de parler du Haut-Languedoc, on va parler de l'éolien industriel, parce que tous les jours, on entend la même petite musique. L'énergie est notre avenir, économisons-la, l'ELEC verte, vous vous y mettez quand ? EDF, changez l'énergie ensemble ! Propagande des énergéticiens en tout genre pour nous faire accepter cette idée qu'ils sont et seront toujours les sauveurs de l'humanité, ceux qui répareront, comme on répare une machine en panne, le climat de la planète, ceux qui solutionneront la hausse dramatique des températures, ceux qui seront les géo-ingénieurs prêts à contrôler une nature devenue chaotique. Mais comment les croire, alors que les solutions qu'ils nous proposent sont à l'opposé des objectifs qu'ils semblent poursuivre. Il en est ainsi de l'éolien industriel qui s'appuie sur un mensonge majeur. Il serait une énergie parfaitement verte, propre et renouvelable. Ah bon ? Ici, dans le Haut-Languedoc, un projet d'éolienne industrielle mobilise la population. L'occasion aujourd'hui de faire le point sur cet éolien industriel faussement écolo, mais sûrement vraiment répressif. C'est le sujet qui fâche. D'Envie à Béziers, l'émission pour ce mois de mars 2022. Pour en parler avec nous, Raymond Allègre, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes un ancien élu local. Jean Pougnet, bonjour.
Bonjour. Moi, je suis co-secrétaire du collectif régional TNE Occitanie Environnement, voilà, qui regroupe environ une centaine d'associations et d'autres collectifs qui se battent contre l'éolien industriel.
D'accord, on va en parler. Et puis autour de la table, puisque tout le monde ici, c'est micro ouvert, tout le monde est là. Il y a aussi Michel Solan, et puis Didier qui est toujours là, et puis Mathilde qui est toujours là d'Envie à Béziers. Jean, l'éolien d'abord, au fond, qui paraît comme ça... une énergie renouvelable, le scénario négawatt en parle, c'est le vent, c'est gratuit, c'est tout ça. Faites-nous un petit peu le point là, qu'est-ce qu'il faut en penser ?
Ce qu'il faut en penser, je ne sais pas, les auditeurs déduiront ce qu'ils voudront, mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est le contexte économique et le contexte des promoteurs qui sont sur ce secteur des énergies renouvelables. Si on regarde un peu qui ils sont, on voit que s'il y a deux gros producteurs qui dominent le marché, c'est-à-dire Engie et EDF, derrière nous avons une kyrielle de sociétés qui se développent, dont Total par exemple. Nous avons Shell aussi qui est dans les énergies renouvelables. Nous avons déjà comme ça, nous avons les Coréens qui viennent racheter une filiale anglaise qui s'appelle RES. Nous avons tout un tas d'opérateurs comme ça, dont on comprend, pour Total en particulier, qui ne sont pas là pour faire de l'écologie, mais qui sont là pour faire du profit. Contrairement à ce que croient certains, Total n'est pas en train de verdir son image. Total est en train de trouver un marché où il y a de gros profits à faire, parce qu'on vend de l'électricité à un prix garanti pendant 15 ans, prix au-dessus du marché, et avec une rentabilité maximum. Donc nous avons ça. D'ailleurs, c'est intéressant de voir les membres du syndicat français des énergies renouvelables. Quand on fait le tour, c'est assez instructif. Bon, nous avons un président qui pantoufle là-dedans après avoir été directeur de l'ADME. Et ensuite, nous avons EDF, donc, nous avons Total, nous avons Siemens, nous avons Voltalia, qui est une filiale de la famille Mulliez d'Auchan. Voltalia qui s'est fait pincer en Birmanie parce que le produit du solaire pour les troupes birmanes. Nous avons aussi une filiale de président de la FNSEA. Enfin, voilà, nous avons tous ces gens-là très préoccupés de l'environnement qui sont au syndicat des énergies renouvelables. Ça, c'est un peu le contexte des promoteurs à qui nous avons affaire sur le terrain. Ensuite, il faut voir le contexte. Qu'est-ce que ça veut dire planter des éoliennes en milieu rural et en milieu de montagne comme ici ? Ce n'est pas juste des grands champs très plats comme on voit dans le nord de la France, où l'accès paraît facile, tout ça. Ici, construire des éoliennes à Albine ou à fond froid, tout ça, ça veut dire faire des pistes de 20-30 mètres de large, ça veut dire bétonner, ça veut dire faire des tranchées pour amener les câbles électriques et sortir le courant, ça veut dire faire des transformateurs, etc. etc. C'est-à-dire, ça veut dire toute une infrastructure, tout un aménagement qui s'ajoute aux dégâts faits par les éoliennes en elles-mêmes. Et puis, nous avons le contexte social aussi. C'est-à-dire que nous avons des villages qui se disputent, des populations qui se séparent entre ceux qui vont profiter et ceux qui en pâtissent. C'est l'éolien dans nos montagnes, c'est ça.
Et alors, qui c'est qui porte ces projets? Parce que si vous vous mobilisez autour de cet éolien, c'est bien parce que il y a des projets ici, précis.
Ah oui, il y a des projets tous les jours. C'est-à-dire, vous avez des promoteurs qui prospectent les maires les uns après les autres pour leur vendre 4, 5 éoliennes en leur disant ça vous rapportera tant à l'année, qui prospectent les propriétaires terriens et qui le font dans la plus grande opacité. C'est-à-dire qu'ils conseillent aux maires, n'en parlez pas avec la population, on va conclure et une fois que ça sera conclu, là vous pourrez en parler. Et tout se passe comme ça, par-dessous la table.
Alors la population, on a un témoin ici.
Tout à fait.
Et même ancien élu en plus. Alors, ça serait intéressant de parler de votre parcours. Racontez-moi un peu votre histoire, comment vous êtes arrivé à une forme de contradiction personnelle.
Bon, je vais raconter un peu ma vie, désolé, mais c'est important parce qu'il y a un clivage qui s'est fait entre la première partie et ce que je vis maintenant. Il y a quand même 15 ans que je suis impliqué dans ces projets éoliens. Et j'ai été amené même à démissionner alors que j'étais adjoint en responsabilité de l'environnement, de la forêt et du tourisme. Et je vais expliquer pourquoi. Je vais évoquer le clivage dans la première partie de ma vie. J'ai fait pendant 27 ans de l'appui au développement en Afrique. Métier passion à la base, en faisant évoluer. Au départ, j'avais beaucoup d'idées, mais je me suis rendu compte que le terrain influait énormément sur la faisabilité des choses. Et au fil des ans, j'ai compris qu'il fallait s'adapter à la culture des gens, aux possibilités locales. Et le maître mot de l'appui au développement, c'était transfert certes de compétences, mais aussi appropriation de ces savoir-faire pour les adapter et avoir une vie plus, disons, économiquement au départ, certes, mais en accord avec la culture dans laquelle on est né. Les Africains ont une richesse de culture, des particularités, et comprenez bien que quand ils émigrent, ce n'est pas pour rien, c'est essentiellement économique, alors que s'ils ont la possibilité de s'installer sur place, ça satisfera davantage leur culture et ils vivent beaucoup mieux en Afrique qu'ils peuvent vivre en Europe. Donc, j'ai travaillé à ces méthodes pour élaborer des compétences bien particulières, toujours avec passion. Je retourne en France après ces 27 ans et j'ai l'impression de vivre, disons, la symétrie. Je me retrouve comme colonisé. Le mot n'est pas trop fort, je vais m'expliquer. Adjoint, parce que j'étais dans une commune ancrée depuis plusieurs années, je participais aux activités culturelles tous les ans pendant mes congés d'été, donc j'avais déjà une équipe. Sauf qu'une fois élu, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà dans les tiroirs un projet éolien qui s'est fait en catimini, comment ? Par une approche qu'on vient d'expliquer, le promoteur vient voir le maire, lui en parle et surtout ne dit rien. Mais ne rien dire à des élus, c'est grave. Parce qu'on les amène dans un chemin où ils n'ont pas forcément envie d'aller. Au bout de 2 ans et demi, le projet est vraiment sorti des cartons. Et tout le monde rural, bien sûr, est venu me voir. Mais qu'est-ce qui se passe ? On n'avait pas parlé, etc. Donc, les investigations ont été faites et c'est là où le milieu associatif s'est réveillé. On a monté un combat avec des recours au départ gracieux, mais qui sont vite devenus devant les tribunaux, au tribunal administratif de Toulouse, puis Bordeaux. On a épuisé les possibilités et le projet maintenant est en train de se faire sur la commune où j'étais élu. 10 éoliennes avec tous les travaux que ça demande, et puis tous les aspects négatifs qu'on n'a pas manqué de souligner, bien sûr, dans nos recours, mais qui n'ont rien fait. La politique est là pour écraser. On a l'impression d'être devant le pot de terre contre le pot de fer et que tout est balayé, quel que soit notre argumentaire. On en est là. Alors je suis fâché, c'est un sujet qui fâche. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer que quand ces éoliennes vont surgir à 200 mètres de chez moi, je vais être heureux? Non, ça va être, pour moi, c'est une catastrophe. Ça va changer complètement le milieu naturel dans lequel j'ai grandi, que j'ai aimé, là où j'ai construit avec tout le potentiel que permettait d'avoir cette envie de vivre au plus près de la nature.
Oui, bon, là, il se trouve que c'est à 200 mètres de chez vous, mais je suppose que si c'était à 20 km, le combat serait le même.
Oui, certes, il faut toujours tenir compte, plus on est près, plus les nuisances sont patentes, c'est évident. Néanmoins, le principe général n'est pas bon. On est vite convaincu en se posant la question, mais on se rend compte aussi que les gens du bourg qui vivent dans la vallée, qui ne les entendront pas, qui ne verront pas, qu'est-ce qu'ils feront? Ils s'en désintéressent naturellement. Et il suffit qu'on leur dise que ça va rapporter de l'argent à la commune pour qu'ils disent « mais c'est bien, on va avoir de l'argent pour faire notre trottoir, nos adductions, etc. » Et c'est ce qui se passe.
Alors, dans ce Haut-Languedoc, il y a combien exactement, Jean Pougnet, de projets?
C'est des dizaines de projets. Actuellement, on est à 1500 MW environ de production de puissance installée en Occitanie. Il est question de multiplier par 3. Donc on voit que c'est quand on dit 1500 MW, il faut compter qu'une éolienne, c'est un 6 ou 2 MW. D'accord. Donc vous voyez combien ça fait d'éoliennes. Il est question de multiplier ça par 3. Donc les projets sont énormes. Et d'ailleurs, sur les ordres de Pompili, il y a eu des réunions qu'ils ont appelées cartographie entre la préfecture, la DREAL et un certain nombre d'associations ou d'élus pour déterminer les futures zones favorables au développement de l'éolien. Or, quand on voit, et c'est ce qu'il y a eu d'amusant dans ces réunions cartographie, c'est qu'il devait y avoir un rendu aux gens qui avaient participé, que ce rendu, on ne l'a jamais eu, et que par contre, on a vu fuiter des cartes où les zones favorables à l'éolien se multiplient de manière inconsidérée, quoi.
Michel, hein?
Non, c'était juste pour rappeler que nous étions tous là, donc habitants du parc naturel du Haut-Languedoc, et que par rapport aux éoliennes, le parc s'était donné dans sa charte donc un plafond à ne pas dépasser. On a toujours dit au parc, c'est pas un plafond à atteindre, hein, ce sont pas des objectifs. Mais ils en sont restés là et on est quasiment aux 300 éoliennes. Ça, c'était ce qui était inscrit. On ne dépasse pas les 300. Donc il faut savoir que sur le territoire du parc naturel régional du Haut-Languedoc, on est quasiment là arrivé aux 300. Et tout l'enjeu, puisque la charte du parc va être renouvelée, et tout l'enjeu pour les associations, mais même des élus hein, qui ont compris que ce n'était pas forcément la solution que d'installer des éoliennes industrielles, tout l'enjeu va être de faire en sorte, en tout cas nous l'espérerions, que le parc du Haut-Languedoc fasse un peu comme le parc de l'Aubrac qui vient de se créer hein, et qui lui a dit niet, zéro éolienne industrielle sur le parc. On a un parc, celui de Corbière-Fenouillède, qui a dit à 90% pas d'éolien industriel sur le parc. Donc on est dans des situations où en fait on s'aperçoit, et pour essayer aussi de convaincre les élus, que quand vous avez des zones qui sont aussi belles et protégées, je veux dire, on ne va pas se mettre à faire des parcs industriels quand en fait on a labellisé des parcs naturels. Donc les enjeux sont importants et ce n'est pas uniquement le problème des éoliennes devant chez soi. C'est ça qui est intéressant, c'est que les associations, certes localement vont se battre s'il y a un projet, les associations vont se créer, les gens vont se mobiliser. Nous, et en particulier le collectif régional Toutes nos énergies Occitanie Environnement, la réflexion, elle est globale, elle est sur un territoire. Et nous, ici, notre réflexion, et les Tarnais et les Héroletais, puisqu'on est à cheval sur deux départements, nos réflexions, elles vont au-delà de... Enfin, il y a aussi... Enfin, je vais passer la parole à Emmanuel, mais il y a aussi quand même une escroquerie sur l'histoire de produire de l'électricité.
Emmanuel, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, je voulais juste dire un mot. C'est qu'on a longtemps à répéter inlassablement que dans nos environnements, les éoliennes pouvaient avoir des effets négatifs sur la santé des habitants et sur la santé du vivant en général, c'est-à-dire sur la biodiversité et sur l'environnement. Bon, quand on disait ça, on nous écoutait gentiment, puisque les éoliennes étaient censées, ou sont toujours censées, sauver la planète, parce que c'est une énergie propre, etc. Et qu'on a besoin d'alternatives aux fossiles. C'est sûr qu'il faut qu'on sorte des énergies fossiles, l'époque nous le dicte encore plus, mais nous faire croire que l'éolien était la solution, sans prendre en compte tous ces aspects de santé, c'était vraiment insupportable pour nous. Or, il se trouve que nous sommes confortés aujourd'hui dans nos positions, puisqu'il y a eu un jugement extrêmement important prononcé par le tribunal par la cour d'appel de Toulouse, pardon, concernant la santé de deux personnes que nous connaissons bien, qui sont des amis de notre coin, qui ont été exposées pendant des années aux éoliennes et qui en ont souffert dans leur santé. Le jugement du tribunal a reconnu que ces éoliennes créaient une réelle nuisance, un trouble anormal de voisinage avec retentissement sur la santé. Un deuxième fait extrêmement important, survenu aujourd'hui même, que nous apprenons aujourd'hui même, et je ne sais pas si je vais laisser à Michel le... Non, Michel me laisse l'annoncer. Nos amis de Ferrières-Poussaroux ont obtenu une victoire extraordinaire au Conseil d'État, puisque le Conseil d'État, contrairement à sa pratique habituelle qui était de confirmer les politiques publiques en faveur des énergies renouvelables et rejetait systématiquement tous les recours, vient de dénoncer le projet éolien et de refuser le projet éolien de Ferrières-Poussaroux au nom de la protection de l'environnement et de la sauvegarde de la biodiversité. C'est extrêmement important et pour nous, c'est une très bonne nouvelle.
Oui, et puis ça pousse à continuer à se mobiliser, Jean ?
Oui, ce qu'il faut dire sur Ferrières-Poussaroux en particulier, c'est que le préfet avait donné une dérogation à l'exploitant, une autorisation de tuer des espèces protégées, ce qui est courant dans les installations éoliennes. Et pour une fois, effectivement, la plus haute instance administrative a dit que non, qu'on ne pouvait pas, au nom de l'intérêt public majeur, comme ça, c'était dit la plupart du temps, autoriser la destruction d'espèces protégées.
Je voudrais qu'on revienne sur l'histoire quand même des éoliennes en particulier. On a beaucoup parlé des oiseaux, des bruits sur la santé. On a aussi parlé, même si le vent c'est gratuit, entre parenthèses, les éoliennes, ce n'est pas gratuit. Il faut les fabriquer, c'est quand même lourd. Et que le bilan, semble-t-il, de ces mastodontes, outre leur laideur, c'est aussi qu'il faut les construire. Est-ce que c'est un argument, ça, Jean ?
Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous a servi, les opposants éoliens, plusieurs arguments qui se sont succédés les uns après les autres. Vous êtes contre l'éolien, ça veut dire que vous êtes pour le nucléaire, comme si c'était l'un ou l'autre, alors qu'en fait, c'est les deux. Puisqu'il faut produire de plus en plus d'énergie, donc vous aurez du nucléaire, 6 EPR, 14, on ne sait pas, et vous aurez en plus des milliers d'éoliennes. Bon, cet argument, on ne le sort plus. Après, on nous a dit, ah, mais vous comprenez, il faut se battre contre le changement climatique. C'est les éoliennes qui vont nous sauver de ça. Maintenant, on voit venir, avec les récents événements en Ukraine, on voit venir le coup où on va nous dire, ah, ça va nous sauver ça, pour notre souveraineté énergétique. Alors quand même, il faut savoir que les éoliennes qui sont installées en France sont installées en particulier par 4 entreprises, une danoise et 3 entreprises allemandes, qui ne construisent pas d'ailleurs en Europe, qui font venir des trucs, mais les constructeurs, ce sont eux. Si on prend les exploitants, il y en a la moitié dans les 20 premières entreprises qui exploitent des éoliennes, qui sont des entreprises qui sont allemandes, coréennes, maintenant chinoises, qui exploitent ces éoliennes. Alors, la souveraineté énergétique, on ne sait pas trop où elle est. Mais ça, c'est on voit venir le coup qu'on va nous le resservir maintenant pour nous convaincre. Quoi.
Alors maintenant, on parle beaucoup d'éoliennes en mer.
Oui.
Alors, industriel là aussi, des grands. Ça enlèverait un certain nombre de nuisances qui ont été dénoncées. Et qu'est-ce que vous pensez de ces projets énormes, hein, d'ailleurs, d'éoliennes en mer, Emmanuel ?
Alors, juste, bon, on ne fait que déplacer le problème parce qu'il y a aussi toute une biodiversité marine qui inquiète. Je veux dire qu'actuellement, nous ne sommes pas compétents puisque nous sommes sur le Haut-Languedoc, mais nous sommes solidaires des combats que mènent d'autres associations pour défendre la biodiversité marine et l'économie de la pêche, de la petite pêche, pas de la pêche industrielle, de la petite pêche qui est menacée par ces installations. Mais au-delà de ce problème de savoir si on va mettre les éoliennes plutôt en mer, plutôt à la terre, plutôt ceci, plutôt cela, c'est le problème de l'idée qu'on va faire une société toute électrique. Si on fait une société toute électrique, il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va davantage exploiter le cuivre qu'on fait venir dans des conditions douteuses, qu'on exploite, qu'on extrait dans des conditions tout à fait douteuses d'un point de vue à la fois écologique et social, dans des pays tiers. Là encore, question d'autonomie énergétique. Notre autonomie énergétique repose en très grande partie sur des importations. On le savait déjà pour le nucléaire, mais on le dit pas assez peut-être sur les énergies renouvelables. Donc cette autonomie énergétique, c'est une grande utopie. Et ce tout électrique, c'est une grande inquiétude parce que ça nous crée une dépendance par rapport à tout un circuit minier. La dépendance par rapport au secteur minier pose quand même de gros problèmes parce que le secteur minier, c'est un secteur qui n'a pas beaucoup de régulation et de contrôle. On a eu une enquête internationale en ce moment sur ces mines
au Guatemala.
Bravo. avec pollution d'un lac dont les pêcheurs découvrent petit à petit que les lamantins sont empoisonnés, que les poissons sont empoisonnés, etc. Et que les populations elles-mêmes qui ingèrent ces poissons, etc. vont à leur tour être contaminées. L'entreprise internationale nie toute responsabilité, muselle les journalistes, crée des conflits intercommunautaires, toujours pareil, en jouant l'argent des uns contre la protestation des autres. Donc on déporte, vous voyez, on n'arrête pas de déporter nos problèmes. Il faut qu'on le voit, qu'on soit lucide. On a toute une série d'externalités qui nous permettent de vivre dans un certain confort. Et plus on va vouloir développer ce confort sur la base électrique pour alimenter nos ordinateurs, nos systèmes, plus on va numériser, plus on va consommer d'électricité, etc. On est dans des logiques qu'il faudrait interroger.
Ralentir en tout cas. Et on ne peut pas vivre sans électricité. Comment on la produit, même s'il faut en produire moins? Alors, éolien ou pas éolien, vous êtes contre l'éolien en tant que tel ou uniquement dans les conditions dans lesquelles ça se présente?
Bon. D'abord, énergie renouvelable, il n'y a pas que l'éolien. Il y a d'autres sources qu'il faudrait explorer, comme la géothermie, notamment. Il y a le solaire qui peut être installé de manière qui ne gêne pas ou qui n'est pas un impact sur le territoire. Mais là aussi, on voit bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'alors qu'on recommande de mettre du solaire dans des friches industrielles, dans des carrières non réhabilitées, un truc comme ça, que font les promoteurs? Ils ne font pas ça du tout. Ils achètent du terrain agricole en friche et ils plantent des hectares et des hectares de panneaux solaires, comme ça se fait dans le Minervois, par exemple, comme ils voulaient le faire au Larzac avec 350 hectares, etc. Le problème, c'est ça. C'est qu'au lieu, on part pas des besoins, on part de toujours plus produire, ça c'est une chose. Et puis d'autre part, qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir? Pourquoi la filière des chauffe-eau solaires, du solaire thermique et pas du solaire électrique, n'a jamais été vraiment développée et vraiment aidée? Et qu'on préfère, à limite, mettre des panneaux solaires sur une maison pour alimenter un chauffe-eau électrique plutôt que de mettre un chauffe-eau solaire. C'est une absurdité. C'est au niveau rentabilité technique, c'est absurde. Mais parce que simplement les choix d'installation, les choix de filière ne répondent pas à des critères d'économie d'énergie, de bien-être population, tout ça, ils répondent à des critères industriels, de profit et de spéculation.
Alors on manque quand même d'arguments maintenant, parce que on a évoqué tout à l'heure un petit peu le nucléaire, c'est avec la guerre en Ukraine, le problème de l'indépendance, etc. Là, on a l'impression que c'est nucléaire 100%, etc., sans penser que pour l'indépendance de la France sur nucléaire, bonjour, parce que l'uranium, quand même, que je sache, on n'en a pas en France. Alors comment? Donc je suppose que vous êtes contre le nucléaire aussi. Alors contre l'éolien, contre le nucléaire, qu'est-ce qui nous reste?
Non, mais déjà, moi, je voudrais dire une chose, c'est que c'est quand même drôle que des gens qui pensent sans arrêt la nation, la défense nationale, etc., etc., se rendent pas compte que de faire des réseaux centralisés, avec des productions centralisées, c'est se mettre à la merci d'un éventuel assaillant de manière énorme. Ça, on voit ce qui se passe en Ukraine, tout le monde flippe à l'idée que ces centrales nucléaires prennent quelque chose qui vient du ciel. Et pourquoi on ne reprend pas les choses à la base, c'est-à-dire production décentralisée, maîtrise des besoins, etc. etc. Souvent, les urbains aiment beaucoup l'éolien, parce qu'ils ne le voient pas. Mais si dans leur ville, puisqu'ils veulent contribuer à lutter contre le réchauffement climatique, s'ils commençaient par éteindre un lampadaire sur deux, déjà, ce serait pas mal, quoi.
Oui, Emmanuel, vous voulez rajouter quelque chose ?
Ben, je voulais dire un mot quand même de ce qu'on doit appeler la sobriété énergétique. La sobriété énergétique, c'est un mot qui est prononcé, qui est affiché dans certains documents officiels, mais qui fait peur, parce que sobriété, vous avez dit sobriété, vous ne voudriez pas dire décroissance par hasard ?
Bon, donc, ça, c'est un gros mot.
C'est des gros mots. Voilà, c'est le gros mot absolu, c'est la décroissance, et le mot atténué, c'est sobriété. Mais j'ai rencontré il y a un mois un chef d'entreprise de notre région. Je ne le nommerai pas pour ne pas le mettre en avant. Mais il m'a convaincu de ses propres convictions qui sont développer l'autonomie des foyers et l'autonomie des entreprises au point de vue énergétique. Je ne parle pas d'autarcie. Il faut rester branché sur le réseau pour avoir toujours une source d'électricité. Mais il dit, une entreprise, si elle s'équipe bien en panneaux solaires, en système d'économie, de bonne gestion de ses consommations électriques, éventuellement en une petite éolienne sur l'entreprise, etc. La géothermie, pour tout ce qui est chaleur, elle peut être autonome à 90%. Et il me donne des exemples, puisqu'il accompagne des entreprises. Et des ménages, pareil. Des foyers, pareil. Donc, même dans une région comme la région de Castres, qui n'est pas la plus ensoleillée de France, hein, je pense maintenant à des régions de tout le littoral méditerranéen qui sont bien ensoleillées, autonomie d'une maison, au point de vue chaleur, au point de vue électricité, il faut miser là-dessus. Ça, c'est vraiment important. L'isolation thermique, l'équipement des maisons en panneaux chauffants ou en géothermie et en panneaux photovoltaïques. Mais tout ça, ça n'intéresse pas les grosses boîtes. Parce que c'est tout le gros qui fonctionne, toute la grosse entreprise qu'on encourage, la grosse finance qu'on stimule, enfin les lobbies qui ont leur présence auprès des grands décideurs. Ces petites décisions, c'est sur le terrain qu'elles vont se prendre.
Alors le GIEC publie des rapports depuis longtemps. Le scénario négawatt, il en est à je ne sais pas combien de versions. Il recule chaque fois puisque le début du début de ce qu'il faudrait commencer à faire n'est même pas fait. Alors la sobriété, j'ai peur qu'elle ne soit pas heureuse. Elle est heureuse si elle est choisie. Elle va devenir dramatique si elle est subie. Et peut-être qu'on va en arriver à être obligé d'être sobre, Jean.
Oui, c'est exactement le problème. C'est-à-dire que si on essayait de réfléchir et de faire réfléchir les gens ensemble sur justement choisir une sobriété, on leur éviterait de leur imposer dans quelques années, parce que ça va arriver de toute façon. Ça va arriver. Cette guerre qui se passe actuellement, c'est un exemple flagrant. Personne ne s'y attendait, mais enfin, on rigole ou quoi ? Personne ne s'y attendait, donc on n'était pas prêt. Mais maintenant, vous allez voir, on va s'y préparer. Et puis, c'est vous qui allez payer l'addition. Et avec le changement climatique, ça va être la même.
Justement, je voudrais revenir sur l'aspect social local. Parce que j'ai parlé, bien sûr, des habitants près des éoliennes. En opposition, c'est pas le bon mot. Il faudrait pas qu'ils soient en opposition. Et des gens qui vivent dans le village, dans le bourg. On assiste maintenant à un phénomène rural, urbain, qui est en train de s'amplifier avec l'installation de ces éoliennes dans les campagnes, sur les montagnes, etc. On voit avec le problème de la voiture électrique qu'elle est faite essentiellement pour épargner les villes, c'est très bien, mais on reporte la pollution ailleurs par la création d'électricité pour les alimenter. Les paysans ont un monde qui se rétrécit, la PAC les met dans des situations, on a y a un mépris vis-à-vis du monde rural qui ne cesse de s'accentuer. L'éolien en fait partie, mais il n'y a pas que cela. Tout autour de moi, des paysans se demandent quel sera le lendemain. Et voir arriver à leur problème de culture, voir le problème environnemental provoqué par les éoliennes, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et que va-t-on vivre dans les années qui viennent en milieu rural, local, dans le Haut-Languedoc? Est-ce qu'il ne faudra pas barrer un jour le mot naturel parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe?
Oui, je voudrais dire que s'il y a des auditeurs qui veulent approfondir le sujet, le collectif Toutes nos énergies Occitanie Environnement a un site sur lequel il y a énormément d'articles, énormément de contributions et de réflexions, non seulement sur l'éolien, mais sur les problèmes énergétiques et sur les réponses qu'on peut donner dans une région comme la nôtre.